et mon cher Alain Boyer. Laurent Boyer, je suis ému, je suis ému.
C'est normal. Vous savez, c'est mon invité. Hein.
Bah oui, parce que en plus, je le dirais, même si je ne le connaissais pas, mais j'ai passé un grand moment de lecture formidable le week-end dernier. J'ai fini son livre le week-end dernier. C'est un livre magnifique avec deux personnages. Mais ça, vous allez en parler en détail avec lui. Et je salue Philippe Labro.
Ben voilà, c'est fait. Bravo, Jérôme Godefroy.
Merci, donc, Jérôme. Hommage, Philippe. Merci, Jérôme. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Philippe.
On a eu la même passion, Jérôme. Ça se lit. C'est formidable, quoi. Ça se lit. Vous avez dû le faire comme moi sur le week-end. Et ça va d'un trait. Bien que 452 pages, c'est un lourd roman que nous avons là. On va l'évoquer, évidemment. Ce roman, merci Jérôme Godefroy. Rendez-vous demain. Caroline, je vous embrasse également.
Oui, moi aussi. Bon après-midi.
Bon après-midi. Vous pouvez monter, hein, Jérôme. Hein, c'est le bel patron, quand même. On est ensemble de 14h30 à 16h. C'est en direct. C'est sur RTL. Et aujourd'hui, comment vous dire, évidemment, nous recevons, comme le disait Jérôme Godefroy, nous allons parler Philippe Labro, roman. Journaliste, cinéaste, parolier, souvenez-vous de Johnny Hallyday, entre autres, vice-président de Direct8, collaborateur au Figaro et conseiller d'RTL. Autant vous dire que c'est un peu le patron puisqu'il a fait les programmes d'RTL depuis une trentaine d'années déjà. Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue.
Merci, bonjour. Et le vrai patron, c'est pas moi, c'est Axel Duroux.
C'est Axel Duroux, d'accord. Enfin, vous faites toujours partie de la maison. Oui, voilà, vous êtes une des forces d'RTL. Vous avez créé cette maison. Vous en avez fait RTL Première Radio de France pendant des années.
Il faut être très honnête, quand on m'a proposé de faire RTL, elle était déjà première. Le problème, c'était de rester premier.
Rester premier, voilà, c'est ça. Voilà, parce que dans le rétro, ça pousse toujours. Donc, il faut regarder devant et rester premier. Donc, vous êtes toujours associé à cette maison. Mais bien sûr, 20e roman de Philippe Labro, un petit peu différent cette fois-ci, on va l'évoquer, puisqu'on n'est plus dans l'autobiographie fiction des premiers romans, primés en interallié, évidemment. Hein. Vous avez probablement lu du Labro à un moment donné, L'étudiant étranger ou Le petit garçon, encore plus récemment. Très très fort, le tomber cette fois, se relever 8 par exemple, ou encore la traversée. Et là, cette fois-ci, Philippe Labro vient avec un roman chez Gallimard qui s'appelle Les gens, titre générique, et évidemment on va vous expliquer de quoi parle ce roman Les gens, avec Philippe jusqu'à 16h en direct. 32-10, profitez-en. Philippe Labro est avec vous en direct, le moyen de communiquer, échanger, bavarder ou tout simplement dire bonjour à Philippe Labro. 32-10, et il y aura 8 960 € à la clé puisque notre cagnotte monte depuis 5 mois et que évidemment cette menu monnaie, et bien que grosse cagnotte, est à vous auditeurs auditrices de RTL au 32-10. À tout de suite.
La tête dans les étoiles sur RTL.
Avec Philippe Labro, Légende, roman chez Gallimard qui vient de paraître, je le disais tout à l'heure, roman fleuve quelque part, qui n'est plus une autobiofiction comme fréquemment d'ailleurs Philippe Labro avait habitude de se livrer. Là, ce sont des personnages qui vous emmènent, des destins croisés qui peut-être se retrouvent, ça rappelle un peu la théorie des 6 de Jacques Expert. Hein, il y a toujours quelqu'un quelque part, il y a un point commun, un dénominateur commun entre des personnages, et le dénominateur commun de ces 3 parcours, parce que là on peut parler de parcours à travers les personnages qu'on trouve dans le roman de Philippe, c'est le manque d'amour. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une césure à un moment de la vie qui fait que ça vous rattrape à un moment donné, ce manque d'amour. C'est le thème du livre, en fait, c'est l'amour, le manque d'amour.
Bien sûr, bravo, bien lu. C'est la solitude.
Solitude, voilà.
Oui, deux femmes très
différentes. Caroline et Maria.
Très différentes l'une de l'autre. Néanmoins, l'une comme l'autre cherche un peu de tendresse, un peu d'échange.
Il y en a une qui est écorchée, hein. Maria n'a pas eu de chance. Hein.
Maria est une petite jeune fille de 16 ans qui prétend avoir plus de 18 ou 20 afin de pouvoir gagner sa vie, puisqu'elle a fugué chez elle. Ça se passe en Californie.
Voilà. Et les autres sont à Paris. Caroline à Paris.
Caroline,
belle femme.
Belle femme, 30 ans, mais qui vient d'être très très brutalement lourdée, comme on dit familièrement, par son amant. Elle pensait que c'était l'homme de sa vie, ça n'a été l'homme que d'une année. Donc, ça blesse. Hein,
voilà, il y a une césure, claque.
Et puis Marcus, une personnalité de la télévision, très en apparence réussie et notoire, mais qui aussi, lui aussi, c'est un homme, souffre d'une solitude qui va jusqu'à l'impuissance. Hein.
Et pourtant, personnage de télévision qui n'a rien d'ailleurs à voir, vous le dites, avec les gens que vous avez pu rencontrer, vous qui êtes vice-président d'une chaîne de télé. Ça, voilà, ne cherchez pas de lien avec un personnage existant. Donc, et c'est là où on vous retrouve, vous êtes libéré et lâché. J'ai lu quelque part que vous avez mis 2 ans à écrire ce livre.
Oui,
vous avez suivi les personnages sans faire de plan, ce qui est assez rare pour un auteur. Hein, quand on parle de techno-thriller, d'espionnage ou encore de roman noir, il y a toujours un plan qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on suit ces personnages par plan. Et là, vous vous êtes laissé aller. Vous avez laissé votre imagination galoper avec ce point de vue qui était ce manque d'amour, c'est-à-dire...
Oui, et quand même, l'obsession que j'avais, parce qu'à partir de l'instant où vous décidez de raconter pendant un moment trois destins parallèles mais différents, il faut bien vous dire qu'il faut bien qu'ils se rencontrent. Donc, à mesure que j'avançais dans la description de ce personnage, des anecdotes, de toutes les scènes...
C'est très descriptif, hein, pardonnez-moi, je fais une parenthèse. Ouais. Et vous avez notamment un vocabulaire sur les couleurs. Ah mais c'est impressionnant. Vous êtes extrêmement descriptif dans les adjectifs.
Mais parce que n'oubliez jamais, Laurent, j'ai été formé par le journalisme et par le cinéma. Et c'est quoi le journalisme ? C'est de montrer, oui, c'est les choses vues de Victor Hugo. Le cinéma, il faut visualiser tout ce qu'on a écrit. On écrit un scénario, ensuite il faut le mettre en scène. Là, c'est pareil, j'ai voulu toujours que le lecteur ou la lectrice voit ce que je raconte. Donc, pour revenir à mes personnages...
Mais pardonnez-moi, je ne sais
pas... Non, pas du tout. Mais ce qui leur arrive, arrive au moment où je l'écris. C'est-à-dire, je pense qu'on a en soi, un écrivain en soi, l'intrigue. Elle est là, quelque part, au fond de soi. Mais c'est comme la pelote de laine, il faut tirer. Hein, et peu à peu, tirer le fil... Et au fur et à mesure que j'avançais dans la vie de ces deux femmes, cet homme, je me disais, mais c'est enfantin, forcément, je sais comment ils vont se rencontrer. Et j'ai peu à peu inventé, mais je suis pas le seul. Il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui, comme vous disiez très bien, font un plan précis, parfait, ils le collent au mur, ils le suivent. Mmh. Et puis il y a ceux qui se mettent, avec quand même au départ une idée, une intention, ensuite à dérouler le récit. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est très excitant.
Hein. Ouais, vous avez dit, c'est la comédie humaine, en fait. Ouais. C'est de l'observation des gens qui sont autour de nous, dans l'esprit des Flaubert, Maupassant, sans faire de comparaison directe, hein, pour pas vous déranger, mais
surtout pas.
Et Balzac et d'autres. Stendhal, souvenez-vous de ces grands romans, justement, où vous avez des personnages qui sont là, qui sont observés dans leurs conditions, dans leur contexte, dans leur quotidienneté, et aussi dans leur tendresse, dans leur affection. Et c'est ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on rentre dans ces personnages, on est blessé pour eux, souvent on est heureux pour eux, et en même temps on sent toute la fracture et la fêlure qu'il y a dans ces personnages.
Et on espère quand même qu'il va se passer quelque chose de positif.
Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est le manque d'amour, et vous le mettez d'ailleurs en exergue avec un philosophe chinois, bien avant Jésus-Christ, vous dites « Le sage doit rechercher le point de départ de tout désordre. » Où tout commence par le manque d'amour.
C'est une phrase géniale, hein.
C'est
extraordinaire. Il fallait un philosophe chinois pour la trouver, et en portant cet enfantin.
Vous n'avez pas sorti là-haut de ce, vous avez été plus loin quand même.
C'est d'une simplicité rare.
Hein. Oui, et vous mettez également en exergue, évidemment c'est sur la quatrième de couve que vous découvrez ça sur le livre chez Gallimard, mais en exergue il y a une phrase de Balzac, vous voyez qu'on n'en est pas loin, vous avez choisi Balzac. Ouais. « Il n'est rien dans ce monde qui soit d'un seul bloc, tout y est mosaïque ». Mais là, on s'en rend compte à travers les personnages.
C'est une vérité.
Rien n'est maniqué, hein, c'est ni noir ni blanc, parfois c'est gris.
Oui. Hein? Et parfois c'est toutes les autres couleurs. C'est multicolore.
Voilà, c'est le kaléidoscope dont on parle là, cette mosaïque.
Oui, d'ailleurs.
Ce prisme du diamant qui renvoie des couleurs multiples.
Oui, et qui fait que. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus toujours épaté, surtout quand j'étais gamin. Depuis, je m'y suis habitué. C'est l'idée qu'au moment même où vous et moi, nous parlons, dans le monde entier, il y a des milliards d'autres univers et d'autres destins qui se jouent.
Histoire.
Ben, c'est fascinant.
C'est des histoires.
Oui, bien sûr. Le monde est fait d'histoires, des milliards d'histoires.
C'est les gens, et c'est le titre du roman de Philippe Labro. Vous ne savez pas qui est Philippe Labro, vous le connaissez évidemment, le cinéaste, les 7 films, les 20 romans, l'écriture, le journalisme, on va l'évoquer. Vous allez apprendre à connaître Philippe Labro d'ici 16h, un seul numéro de téléphone, le 3210.
Des stars et vous.
La tête dans les étoiles.
Sur RTL.
Philippe Labro, votre invité cet après-midi jusqu'à 16h sur RTL et en direct, s'il vous plaît. À RTL qu'on écoute en Seine-Maritime sur 104.5 ou RTL.fr, qui vous permet d'ailleurs... à tout moment, 24h sur 24, de réécouter cette émission à loisir. Nous allons à Rouen, en Seine-Maritime, dire bonjour à Carole. Bonjour Carole.
Bonjour, enchantée.
Je vous présente Philippe Labro, Carole.
Je suis vraiment ravie de jouer avec vous.
Merci Carole, bonjour.
Bonjour.
Alors Carole, écoutez bien. Enfin, méfiez-vous quand même, jouer avec Philippe Labro, faire gaffe. Hein.
Oui, ça va être dur.
Calmez-vous, hein, là, Carole. Carole, bonne chance avec Philippe, voici la première affirmation. Philippe Labro est né à Neuilly-sur-Seine. En banlieue parisienne, enfin à Paris. Vrai ou faux ?
J'ai tendance à dire vrai.
Ah. Et non, que vous dire ? Philippe est né à Montauban. Et ça ne se sait pas assez, Philippe Labro.
Non, parce que ça... ça se sait quand même.
Mais on peut chercher l'accent du Tarn-et-Garonne, mais on ne l'a pas vraiment. Hein.
Pourtant, je peux le prendre.
Et voilà.
Quand on veut. Je peux parler du rubis quand on veut.
C'est là que vous l'avez eu longtemps, cet accent. Hein,
je l'ai eu jusqu'à l'âge de 12 ans, auquel je suis arrivé à Paris. J'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser, mais je me faisais tellement traiter de petit plouc dans la cour du lycée Janson de Sailly qu'il a bien fallu parisianiser ma tonalité.
Et alors vous dites que vous reprenez facilement l'accent, on vient de le voir à l'instant, c'est-à-dire qu'il suffit de redescendre un peu dans le Tarn-et-Garonne et ça revient au galop, c'est ça ?
Mais même lorsque je vais voir un match de rugby, puisque j'adore le rugby, pour le simple plaisir, avec les copains, je me mets à rouler les airs.
C'est bon. Votre père était conseiller juridique, votre maman Henriette était fonctionnaire au ministère de la Défense.
Exact.
Et alors étonnamment, vous qui avez écrit 20 romans, enfin le 20e est là, hein, les gens qui viennent de paraître, vous aviez, Jean Labraud avait publié plusieurs livres à compte d'auteur.
Jean Labraud, mon père, je vous signale d'ailleurs que mon fils s'appelle Jean, et je lui ai dédié mon roman, avait effectivement, dans les années 40, écrit 3 manuscrits, et ils ne trouvaient pas d'éditeur, donc ils ont publié à compte d'auteur. J'en ai eu aucun succès, mais ils sont très précieux dans ma bibliothèque, et je peux vous dire que c'est pas rien, hein, c'est sacrément écrit.
Et il écrivait sur quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, c'était un homme qui avait une vision, disons, un peu dure et pessimiste de l'existence. Je vous donne une idée des titres. Son premier livre s'appelait « Dénuement ». Le deuxième s'appelait La voix sans issue et le troisième Le geste de Cain. Donc à part ça, vous voyez pourquoi je ris. C'est-à-dire que c'est un homme admirable, c'est un modèle pour nous tous, mes frères et moi-même. Mais papa, puisque je l'appelle comme ça, comme tous les garçons, avait une vision très, très neurasthénique de l'existence. Due à une enfance très difficile, il a perdu son père très tôt, il s'est battu beaucoup, il a eu des difficultés pour parvenir à un statut. Et donc, il avait un regard sur la vie qui n'était pas forcément très rose, même si c'était un père admirable et un mari exemplaire. Il a connu... Ma mère avait 20 ans, il en avait 40 quand il l'a rencontré, vous vous rendez compte ?
Et vous dites d'ailleurs que vous avez des soucis avec votre papa, de par cette différence d'âge. Vous êtes le troisième des quatre fils,
oui, c'est oui. Ça ? Bah oui, j'étais tout gamin. Et bon, c'est seulement peu à peu, en arrivant à l'âge quasi-adulte, que je me suis rendu compte à quel point cet homme était riche d'expérience, de savoir, de culture, d'idées, de sagesse, et que j'aurais dû beaucoup plus souvent converser avec lui. Mais vous savez ce que c'est, on ne s'en rend compte qu'après.
Tiens, à propos des fractures et de l'amour, justement, du manque d'amour, vous avez dit « je t'aime » à votre père ?
Je ne suis pas certain de lui avoir jamais dit. Je ne suis pas certain. Mais enfin, pour nous, c'était une évidence. Mais vous voyez, c'était des figures de père autres qu'aujourd'hui.
Oui, on pouvait pas
le dialogue n'est pas du tout le même. C'était une sorte de... C'était un homme assez grand, 1m80, les cheveux blancs, une figure de père noble, si vous voulez, hein, pour parler sans cliché. Et donc, on le respectait beaucoup, tout en, évidemment, comme tous les enfants, se moquant de lui, le caricaturant. Mais dans son dos.
Oui, c'est ça dans le dos. On fait attention dans ces cas-là. Carole.
Le point commun.
Carole Arouan, le point commun entre Philippe Labraud et cet extrait du film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Écoutez.
La zone libre est envahie. Je vois pas ce que ça change. Tu voulais me faire traverser la moitié de la France pleine d'Allemands. Eh bien, je traverserai toute la France.
Tu ne traverseras rien du tout. Les Allemands sont partout.
Alors, qu'est-ce que je deviens, moi ?
Tu restes ici en attendant que ça se tasse.
Je peux plus rester ici ou alors je deviendrai fou. C'est pas une vie. Tu t'es jamais demandé ce que je faisais ici toute la journée ? Je lis beaucoup, tu sais. J'écoute des mensonges à la radio. Ensuite, je lis des mensonges dans le journal. Et alors, pour empêcher mon cerveau de se ramollir, je décide de faire des mots croisés. Tiens, en 6 lettres, symbole de la bassesse. Youpa. On ne s'en méfie jamais assez. En 4 lettres, ça commence par un J. Alors, j'arrête les mots croisés. J'écoute les bruits du théâtre. Je guette les pas dans l'escalier. J'attends que tu viennes. J'attends. J'en ai assez d'attendre.
Bel extrait, hein, Carole, de François Truffaut dans Le Dernier Métro. Je cherche le point commun avec Philippe Labraud et cet extrait du Dernier Métro. 3 propositions, vous aurez 10 secondes pour y répondre. Voici la première. Philippe Labraud adore faire des mots croisés. 2. Les parents de Philippe Labraud ont caché des juifs pendant la guerre. Ou 3. Philippe Labraud écrit une pièce de théâtre.
Alors, je pense que il aime faire des mots croisés.
Oh, ouais, non, ce ne sont pas les mots croisés. Écrit une pièce de théâtre. Peut-être un jour Philippe Labraud écrira une pièce de théâtre, ou alors une a été écrite qui n'est pas parue, c'est possible.
Non, je ne sais pas faire ça. C'est
d'accord.
Quelque chose que j'ai jamais pu aborder, encore.
Oui, encore, voilà, c'est à venir.
Oui,
c'est lui qui a regardé devant, qui est multi-artiste, Philippe Labraud. Mais en revanche, les parents de Philippe Labraud ont caché des juifs pendant la guerre. C'était en 42, et les Allemands débarquent dans la région de Montauban, réquisitionnent la maison.
Oui.
Ça, c'est, on plante le décor.
Oui, en 42, la France est occupée, une partie de la France de 40 à 42, ensuite la zone libre disparaît et ils sont partout. Et donc, mon père avait trouvé une très belle villa, un peu en dehors de la ville, où on allait, on vivait, on jouait, on s'amusait. Elle était tellement belle, le jardin était tellement beau que le commandant de la place, allemand, se baladant et considérant que la caserne dans laquelle il couchait le soir n'était pas très agréable, décide de réquisitionner le premier étage de la villa tolère que nous restions avec mon père, ma mère et mes frères au rez-de-chaussée. Et par conséquent, nous nous installons tous au rez-de-chaussée et à la cave. Il y a les juifs que mon père cachait. Il faisait partie d'une sorte de réseau de passage
en Espagne
pour aller en Espagne ensuite. Et c'est après coup, encore une fois, avec le recul, moi j'étais un gamin, j'avais 6 ans à peine, que je me suis rendu compte de l'héroïsme incroyable et du danger incroyable que mes parents ont vécu. Parce qu'ils se mettaient
maison,
eux en danger et leurs enfants.
Oui, c'est ça, c'est des risques incroyables.
J'ai raconté ça dans Le Petit Garçon, d'ailleurs, oui. C'est un roman très autobiographique.
Oui. Et le nom de vos parents figure sur le mémorial des Justes à Jérusalem.
Bien sûr, et aussi il y a un mur ici à Paris, oui. Dans le 4e arrondissement, le mur de la Shoah, ils sont là. Enfin, pas la Shoah, bien sûr, en fait, des Justes qui ont aidé les Juifs. Ouais. Oui. C'est une de nos fiertés, et ma fierté, c'est que mes enfants, et en particulier Jean, donc, mon fils, qui a le prénom de mon père, est allé tout seul un jour voir simplement le nom de ses grands-parents.
Parents à Jérusalem, sur le mur des Justes. Je vous renvoie évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, à la liste de Schindler, de Spielberg. Vous comprendrez évidemment le travail, entre autres, des Justes. Parfois même en Pologne ou en Allemagne, ils l'ont fait, mais beaucoup en France. Encore un film qui passe en ce moment sur Canal+, qui s'appelle Les Faussaires, qui est récent, qui est absolument formidable dans le genre. Carole à Rouen, mais dites donc, vous m'avez pas mis de point avec Philippe Labron.
Eh non, j'ai pas eu de chance.
Bah alors. Il faudra revenir, hein, Carole, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous, de toute façon.
Eh ben, je vous remercie bien.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Carole.
Je vous en prie.
Écoutez à tout moment La Tête dans les Étoiles sur RTL.fr.
Avec Philippe Labro, qui est votre invité jusqu'à 16h sur RTL. Philippe, un oui-non. Alors, 5 questions auxquelles vous allez devoir répondre par oui ou par non, sans commentaire pour l'instant. Ensuite, vous pourrez commenter vos réponses. Voilà qui est manichéen, justement, tiens. Avez-vous déjà été meurtri par une mauvaise critique? Oui ou non?
Oui.
Regrettez-vous quelque chose dans votre carrière?
Oui.
Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un? Vous?
Non.
Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, quel métier aimeriez-vous faire? Quelle passion?
Le même que celui que j'exerce.
Donc vous avez une idée, mais en tous les cas, voilà, oui. C'est le vôtre. Hein? Y a-t-il une femme célèbre avec laquelle vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur?
Pas besoin, j'ai ma propre femme.
Il est à la seconde, 15h.
La Tête dans les Étoiles, 14h30, 16h, avec Laurent Boyer sur RTL.
Philippe Labro est votre invité aujourd'hui avec Les gens, son 20e roman, paru chez Gallimard. Et Philippe, 5 questions que l'on vous a posées avec un oui-non, et maintenant vous allez pouvoir commenter vos réponses. Avez-vous déjà été meurtri par une mauvaise critique? Vous m'avez répondu oui.
Oui, par plusieurs mauvaises critiques. Une des plus mauvaises, c'est lors de la sortie de mon dernier long métrage, qui s'appelle Rive droite, rive gauche, avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Carole Bouquet. Et il y a un quotidien que je ne nommerai pas, parce qu'il ne mérite pas qu'on les nomme, qui a fait un papier véritablement dégueulasse. Et le titre était génial, c'était La Brocante. Ce sont des génies, ces gens-là. Mais ça marche.
C'est le titre qui marche, c'est ça.
Alors. Bon, on rigole, si vous voulez, Laurent, on rigole avec le recul. Mais quand vous ouvrez le journal le matin et que vous voyez ça, vous dites, bon ben ça va, ça veut dire qu'ils vont m'assassiner. Donc effectivement, le papier correspondait bien au titre.
Et vous avez été meurtri, donc c'est vif.
Meurtri est un terme très fort, disons que ça m'a un peu insulté, quoi.
Regrettez-vous quelque chose dans votre carrière? Vous m'avez dit oui.
Oui, ben on a toujours beaucoup de regrets. Mais enfin, j'en ai un en particulier très vif, qui est l'abandon, et pas par ma faute, d'une émission que j'adorais faire sur France 3 qui s'appelait Ombre et Lumière, qui était un entretien de 28 minutes, mis en scène par un génie de la télé qui s'appelle Pulicino, produit par Nagui, et qui me permettait d'aller à fond dans la personnalité de qui que ce soit d'un peu célèbre ou important ou intéressant. Et donc c'est une émission que j'ai adoré faire et qui s'est interrompue, pas par ma faute, pour des raisons, on ne va pas revenir dessus, que France Télévisions considérait que je ne pouvais pas à la fois m'occuper de Direct 8, oui. Une chaîne privée, et être sur une chaîne de service public. Je pensais qu'on pouvait très bien faire les deux. Bref, en tout cas, c'est un regret. C'est un regret parce que c'est un format que j'ai adoré faire. Et simplement, je sais que je le reprendrai un jour.
Ça, c'est fait et c'est dit, c'est bien. Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un, vous qui avez croisé la Terre entière?
Non. Non. Non, non, non.
Ça, c'est assez étonnant. Même pas une fois, même gamin, ni même étudiant. Ou...
Non, absolument non. Pas. Non, non, je ne sais pas. C'est pas du tout que je méprise cette démarche. Et d'ailleurs, quand on m'en demande, à moi, de temps en temps, je les donne, évidemment.
Vous faites les salons du livre. Vous
oui,
avez...
oui, voilà. Non, il faut toujours le faire. Non, non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit.
Si vous aviez...
Pour vous dire, pardon, que allez-y. Si je devais rencontrer, et je le faisais quand j'étais gamin ou jeune homme, ou jeune inconnu, quelqu'un de célèbre, c'était pas ça que je lui demandais. Je lui posais des questions tout de suite sur lui, ce qu'il faisait, ce que je pouvais faire, mais l'autographe me semblait pas très très important.
Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, quel métier, savez-vous quel métier vous aimeriez faire? Vous m'avez dit oui, le mien.
Oui, je pense que j'aimerais à nouveau exercer.
Les vôtres.
Oui, les miens, oui, vous avez raison. Oui, j'aimerais rajouter le théâtre, comme on disait tout à l'heure.
Mais musicien ou musicien.
Ah oui, vous avez raison, c'est vrai.
Vous êtes parolier.
Mon grand manque, c'est de ne pas savoir écrire la musique. Je suis parolier, effectivement, avec quelques petites réussites, hein, avec notre ami Johnny, entre autres. Mais écrire la musique, ça, effectivement, c'est le rêve. Voilà. Oui, et alors peut-être qu'effectivement, vous avez raison. Au fond, je préférerais peut-être être soit compositeur, soit aussi, c'est un métier sublime, chef d'orchestre.
Y a-t-il une femme célèbre avec laquelle vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Mais vous savez que tout le monde a répondu, hein, tout le monde a un fantasme.
Ah oui?
Oui, oui. Non, vous n'en avez pas un, non?
Non, 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 si, quand j'étais gamin, j'avais des fantasmes.
Ah bah alors, allons-y sur un fantasme de gamin.
Fantasme de gamin, j'appartiens à une génération qui était extasiée et allumée, dans tous les sens du terme, et particulièrement sexuellement, par Rita Hayworth.
J'allais vous le dire.
La pin-up girl, avec les gants de Gilda, on dit en français, Gilda en américain, et qui représentait, pour moi, jeune lycéen, ce qu'on appelle le sexe. Quoi, hein.
Ouais, cette chevelure rousse incroyable.
Alors simplement, un lycéen dans un ascenseur avec cette femme, je crois qu'il ne pourrait pas faire grand-chose.
Le dernier numéro est paru.
Des stars et vous, la tête dans les étoiles.
Sur RTL.
RTL qu'on écoute sur 93 à Lille, à Tourcoing, dans le Nord. Nous retrouvons Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Laurent.
Je vous présente Philippe Labro.
Bonjour Monsieur Labro.
Bonjour Françoise.
C'est incroyable aujourd'hui, hein, on vous sort du Monsieur Labro, hein, Philippe. Hein. Bah, vous ne pouvez rien, c'est comme ça.
Ouais, hein. On peut dire bonjour Philippe.
Non, mais...
Bonjour Philippe.
Tiens, voilà.
Bonjour Françoise.
C'est fait, bien joué Françoise. Françoise, bonne chance avec Philippe Labro. Voici la première affirmation. Philippe Labro a été bûcheron. Vrai ou faux?
Je pense qu'il l'a été aux États-Unis.
D'accord, alors là vous connaissez le parcours, vous avez lu les livres. Hein.
Bravo.
Quelques-uns, ouais. Oui. Pas les 20, malheureusement, mais...
Mais ça va venir avec les gens. Vous allez le lire, vous verrez. Vous allez comprendre. Alors effectivement, Philippe Labro a été bûcheron. Alors on évoquait tout à l'heure Janson de Sailly, le parcours de Philippe. Et puis Philippe, à 18 ans, grâce à une bourse que vous obtenez, vous partez étudier aux États-Unis.
Oui, dans un campus absolument idyllique. Petit collège qui s'appelle Washington and Lee, en Virginie. Et évidemment, je ne connaissais personne.
Et c'était très rare, il faut dire qu'à l'époque...
Rarissime.
Voilà, très peu de gens sont allés étudier aux États-Unis à cette époque-là. Hein.
Oui, c'était exotique à un point tel que j'avais l'impression de Marco Polo découvrant les Indes.
Oui.
C'est un pays, des mœurs, un langage, des comportements totalement différents. Bon, je parlais à peu près bien l'anglais, parce que c'était une des rares matières en laquelle j'étais assez bon au lycée, mais tout de même, il fallait, Laurent, tout le temps s'adapter. Et ça a été une leçon de vie inouïe, parce qu'il fallait que je m'adapte. Et il n'était pas question de téléphoner à la famille, le téléphone, ça n'existait pas.
Vous étiez seul là-bas.
Je n'ai jamais parlé au téléphone à mes parents pendant 2 ans. On correspondait par lettre. Mais je ne suis jamais revenu chez moi. Donc, je me suis totalement incrusté, imprégné, rentré dans cet univers américain, cette société américaine, au point, d'ailleurs, que quand je suis rentré en France, je parlais avec un petit accent. Bon, j'en rajoutais, bien sûr, comme toujours quand on a 20 ans. Non, mais ça a été absolument passionnant et très instructif.
Ouais, et alors, une fois que vous avez fait une petite année en Virginie, donc, et vous êtes parti travailler tout un été comme bûcheron dans le Colorado.
Oui, pour bûcheron et en même temps nettoyeur de forêt. C'est-à-dire que j'avais trouvé du boulot, parce qu'il fallait que j'aille de ma vie, parce que je restais un an de plus, j'avais réussi à renouveler, non pas la bourse, mais mon séjour. Ouais. Mais là, je le payais, avec en plus une autre petite bourse universitaire. Enfin bref, il fallait que je fasse ce qu'on appelle un summer job, un boulot d'été. Et j'avais trouvé, en faisant toutes sortes de sollicitations, un boulot comme ouvrier forestier à 3000 mètres d'altitude dans le Colorado, le sud-ouest Colorado, un endroit sublimement beau, et où le boulot consistait à nettoyer des arbres qui étaient envahis par des espèces de petits insectes qu'ils appelaient des beetles d'ailleurs. et donc il fallait les arroser d'un liquide absolument dégueulasse, si bien qu'on travaillait toute la journée avec des masques. Et de temps en temps, quand on commençait à être un peu plus costaud, parce que quand je suis arrivé, j'étais maigrelet, mais au bout d'un mois, je peux vous dire que j'avais du muscle, on vous permettait de faire partie de l'équipe des bûcherons qui, eux, taillaient les arbres qu'on ne pouvait plus sauver. Donc, effectivement, j'étais, entre guillemets, bûcheron, mais j'ai surtout été ouvrier forestier, temporaire, quelque part, dans le Colorado.
Vous avez été également serveur, évidemment, laveur de voiture, enfin, tous les petits boulots qu'on peut faire aux États-Unis à ce moment-là. Et vous êtes revenu, non seulement vous aviez peut-être un léger accent, mais à votre retour en France, vous avez fait sensation avec vos bottes.
De cow-boy, bien sûr. Ah ben, parce qu'en Colorado, vous portez quoi? Vous portez des westerns avec des talons biseautés. Et c'est pas du tout un déguisement. Sauf que quand on débarque à Paris au début des années 60, même fin 50,
personne ne portait pas de cow-boy.
Non, personne. Si. Il y avait une personne qui en portait et que je rencontre un jour dans une boîte de nuit et il s'appelait Johnny Hallyday. Et il a vu ça, j'ai vu les siennes, on s'est dit tiens, il y a au moins quelque chose de commun entre nous. Mais effectivement, j'étais grotesque, je me mettais en costume normal et j'allais solliciter un boulot puisque j'essayais de devenir journaliste, hein, j'avais pas du tout envie de reprendre mes études, d'ailleurs je n'ai jamais reprise. Et il me regardait, oui, un garçon tout à fait sympathique, il est bilingue, il a fait des études de journalisme aux États-Unis, tout va très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ridicule?
C'est ça. Alors qu'aux États-Unis, ça se fait fréquemment, quoi. On peut voir notamment dans le Sud, des bottes américaines de cow-boy.
Le non-regretté président Bush a tout le temps porté des bottes de cow-boy, même à la Maison-Blanche. Hein.
C'est incroyable. Ouais. Vous avez prêté votre voix aussi à un pivert pour un film de Walt Disney.
Oui, j'ai doublé un film de Walt Disney en français, c'est ça, pour gagner un peu d'argent.
Ouais, c'est ça, plein de petits boulots. Hein. Alors attention, Françoise.
Le point commun.
Le point commun sur RTL entre Philippe Labro et l'écrivain Charles Bukowski, se faisant virer du plateau d'Apostrophe par Bernard Pivot le 22 septembre 1978 parce qu'il était ivre. Écoutez.
Est-ce que vous pouvez emmener M. Bukowski?
Non, il faut le garder là.
Il est très bien.
Ça me gênerait beaucoup, ça me ferait un peu plus parler.
N'empêche, parler quand même.
Non.
D'abord, je me félicite de vous avoir interviewé au début.
Bukowski, ta gueule, tu nous en quittes.
Voilà.
Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule.
Oui. Ça met dans les archives.
Arrêtez, parce que je vais vous couper le vin blanc. Hein, je vais...
Ça, c'est votre faute. Il fallait mettre un faux vin, il fallait mettre de l'eau dedans.
Mais il a porté ses bouteilles.
Il a porté ses bouteilles. C'était la télévision qui lui offre.
Il a porté lui-même ses bouteilles.
Je ne savais pas qu'on pouvait apporter sans manger.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs pour ce que j'appellerais nos déboires.
C'est joli ça, c'est
merveilleux. Pivot. C'était génial, l'apostrophe. Bernard Pivot l'a animé de façon extraordinaire. Mais l'incident entre Bukowski qui se bourre la gueule au vin blanc devant les autres écrivains français, à la fois fascinés et en même temps énervés, c'est un moment de télé. Bravo d'avoir récupéré cette archive.
C'est un moment d'anthologie. Hein. Alors, quel est le point commun, Françoise, entre Philippe Labro et l'extrait qu'on vient d'écouter? J'ai trois propositions à vous faire. 1. Philippe Labro s'est saoulé avec un écrivain, lui aussi. 2. Philippe Labro s'est battu avec un écrivain, ou 3, Philippe Labro a viré un écrivain de son bureau.
Je pense qu'il a dû virer un écrivain de son bureau.
Eh oui, vous avez voulu l'appeler Monsieur Labro et c'est pour ça que vous vous dites c'est pas possible, Philippe Labro s'est saoulé avec un écrivain, non mais je rêve. Eh bien si, Françoise, il l'a fait. Ah. Pour son premier article de journaliste, vous l'avez fait, Philippe.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer pour mon premier papier le grand poète, le grand écrivain Blaise Sandars. Immortel auteur du Transsibérien. Il était un peu vieux et fatigué. Il me reçoit chez lui. Il avait une grande bouteille de vin blanc et deux verres. Il me dit, buvez, jeune homme. Donc, j'ai commencé à boire pour être dans le coup avec lui, pour essayer d'obtenir quelques réponses à mes questions. Il m'a tellement fait picoler que je suis sorti de là complètement ivre. Et en même temps, je savais que j'avais un bon papier, que j'avais obtenu de lui des réponses intéressantes. Je suis parti dans le premier bistrot. J'ai avalé trois cafés pour bien dégurgiter tout cela dans les toilettes.
À la rédaction, genre.
Et pour écrire le papier.
Ah oui, bon, enfin écrire le papier, c'est ça, le présenter à sa rédaction. Françoise, vous êtes qualifiée à Tourcoing avec une bonne réponse pour 8 960 € tout à l'heure pour 6 affirmations de Philippe Labro. La montre RTL est à vous à Tourcoing.
Entendu.
À tout à l'heure, Françoise.
Oui, merci.
Faites comme Françoise, 32-10. Philippe Labro est en direct sur RTL jusqu'à 16h.
Pour dialoguer avec vos stars préférées, appelez maintenant le 32-10. La tête dans les étoiles sur RTL.
Et nous allons faire un tour du côté de Lyon, dans le Rhône, où on écoute RTL sur 105 ou RTL.fr. Retrouvez Quentin. Bonjour, Quentin.
Bonjour. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Quentin.
Quentin, bonne chance avec Philippe Labro.
Merci.
Voici la première affirmation. Philippe Labro a joué dans un film de Jean-Luc Godard. À votre avis, c'est vrai ou faux?
Je dirais que c'est vrai.
Vous avez raison, ça c'est peu, Philippe. Mais en revanche, je vous l'avais fait. Hein.
Oui, dans Made in USA en 69, figurez-vous, avec Anna Karina.
Oui, vous donniez la réplique à Anna Karina.
Oui.
Hein, c'était... Donc vous avez même été acteur. Alors je citais les le côté pur artiste.
C'était pas acteur puisqu'il me faisait, Jean-Luc me faisait jouer mon propre rôle, celui d'un journaliste radio. Sauf que c'était pas RTL.
Non, mais c'est bien d'être dans un Godard quand même, c'est chic.
Oui, c'est très chic, ça m'a permis surtout de voir de l'intérieur comment travaillait Godard. Oui. Et c'est très intéressant.
C'est la nouvelle vague. Hein. C'était de toute cette expérience de fin de nouvelle vague dans les années fin des années 60. On est en 69. Un Godard que vous avez retrouvé en mai 82, Philippe. Sur un 13h de France 2. Vous vous marrez déjà. Ça vous dérange si on écoute l'extrait ou pas?
Ah non, au contraire, je suis ravi.
Écoutez.
Vous vous doutez bien que les envoyés spéciaux de, toute télévision, sauf la télévision britannique, ne sont pas présents sur le lieu des combats. C'est la guerre, Jean-Luc Godard, la moins filmée du monde.
Vous souhaiteriez, Philippe, être sur le lieu des combats?
C'est mon métier, et si...
Non, mais vous souhaiteriez, vous?
Moi, personnellement? Moi, je crois que
Non, personnellement, comme métier.
Mais je crois que j'ai eu ma dose de guerre, comme tout reporter qui commence...
Non, mais là, et de montrer la guerre en direct, vous pensez?
Moi, je pense pas qu'on puisse la monter en direct,
Jean-Luc.
Moi, je pense
que ça passionnerait les gens, et on y vient. Et on y vient, les jeux du cirque. Et la guerre est faite pour passer à la télévision. Trois jours, vous n'en parlerez plus, comme le Niger.
Mais écoutez, vous plaisantez, ça fait 7 semaines qu'on parle des Malouines, Jean-Luc Godard. Tous les jours ou presque, on en parle. Mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information.
Alors pourquoi vous ne le dites pas, Philippe? Et vous ne commencez pas votre journal en disant « je ne sais pas ».
J'ai commencé mon journal, Jean-Luc, en disant « information contradictoire et confuse ». L'Argentine dit une chose, Londres autre chose.
Information contradictoire, vous avez l'air de savoir que c'est information contradictoire. Dites, moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe.
Mais d'abord, je ne suis pas chef d'antenne 2.
Non.
Première information. Deuxièmement.
Moi, speaker, je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne suis pas speaker non plus.
Je ne suis pas speaker non plus. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ça n'est pas une bonne définition, speaker, Jean-Luc Godard.
Ah, ou du moins, je ne vois pas ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça?
Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Malouine. Ça vous convient? Ça vous satisfait?
Vous êtes patient, hein, Philippe. Vous êtes patient.
Ah, il n'était pas facile. Ouais. Parce que je le connaissais déjà très bien. Hein,
mais vous aviez même tourné avec lui. C'est lui qui vous avait engagé pour un film.
Oui, non, mais il est vrai que la guerre des Malouines a été une des guerres les moins filmées, les moins couvertes, comme on dit en matière journalistique. Et donc, il a essayé de me piéger, pas méchamment, mais c'était aussi pour démontrer sa vision qu'il avait de la télé. Ouais. Et moi, j'ai essayé de défendre notre métier. Mais c'est devenu alors un moment culte. On n'arrête pas de me resservir cet extrait.
Mais vous avez raison, c'est culte. C'est un extrait culte. Quentin.
Le point commun.
Le point commun sur RTL entre Philippe Labreau et cet extrait du film La Môme avec Marion Cotillard et Gérard Depardieu.
Dis-moi ton nom.
Edith Giovanna Gassion.
C'est pas terrible.
Mais j'ai aussi d'autres noms quand je chante. Huguette Elias, Tania, Denise Jay. Oh, vous vous faites les ongles.
C'est pas la question. Tu me fais penser à un moineau.
Ah bon? Ça.
La môme, moineau, c'est déjà pris?
C'est déjà pris.
Ouais. Un moineau. Là d'où tu viens, un moineau, ça se dit piaf. C'est ça, hein? Un piaf. La môme piaf.
Ah, c'est génial.
La môme piaf, ça fait tarte.
Mais qu'est-ce que tu racontes? La môme piaf.
Ah, c'est vraiment génial.
C'était pour un répertoire digne de ce nom. Tu vas travailler Nini Pochien, la valse brune, les classiques de Bruyon, les mômes de la cloche.
Ah, bah celle-là, je la connais.
Je veux que tu y travailles. Toutes les nuits, s'il le faut. Tu commences vendredi.
Quentin à Lyon, le point commun entre Philippe Labreau et cet extrait de La Môme qu'on vient d'écouter. Trois propositions. La première, Philippe Labreau avait pris un pseudonyme pour écrire un de ses romans. Deux, Philippe Labreau a interviewé Piaf. Ou trois, Philippe Labreau a habité dans un appartement où Edith Piaf avait vécu.
Il me semble qu'il a pris un pseudonyme pour un de ses livres.
Vous êtes fort, Quentin.
Bravo, oui. C'était Stéphanie. Pour un livre qui s'appelait Cornichons au chocolat.
Mon Dieu. C'était le journal intime d'une adolescente de 13 ans. Vous imaginez déjà l'imagination galopante de Philippe Labreau, hein?
Je me suis mis dans la peau d'une jeune fille, ou même pas, d'une jeune adolescente, dont le problème principal était que toutes ses copines venaient d'avoir leurs règles et pas elle. Donc elle se considérait comme en retard et pas à la hauteur de sa génération. Et c'était une petite fille très malheureuse. Et j'ai voulu raconter son histoire. Et pour elle, la vie consistait à la douceur du chocolat et l'aigreur des cornichons.
Ce qui est incroyable, c'est que vous avez écrit ce roman. Tout le monde a cherché à savoir qui était Stéphanie.
Oui.
Et vous êtes sorti du placard que 20 ans après.
Oui, parce qu'on a joué le jeu comme ça. Il m'a semblé que quand le bouquin est sorti, on ne croirait pas ce livre si on savait que c'était un adulte et un homme qui l'avait écrit. Donc j'ai voulu me réfugier derrière ce pseudo, ça m'amusait. Et puis peu à peu, on a cru que Stéphanie existait, au point que je recevais du courrier au nom de Stéphanie.
Au nom de Stéphanie, c'est
Mais bien
ça.
Sûr. Et alors j'ai poussé l'imposture, il faut que je l'avoue, jusqu'à non pas répondre à sa place, mais à dire, écoute, elle ne peut pas vous répondre parce qu'elle est partie vivre une autre vie en Australie avec ses parents.
J'adore ça. Et à propos de Depardieu, on avait mis Depardieu, évidemment, il faut savoir que Philippe a dirigé Gérard Depardieu dans Rive droite, Rive gauche, avec Nathalie Baye, on en parlait tout à l'heure, là c'est l'aspect cinéaste de Philippe Labro, 7 films au compteur en tant que réalisateur. Et pas des moindres. Quentin, deux bonnes réponses.
Rive droite, Rive gauche, très beau film.
Merci Quentin. Voilà. Oh ben dis donc, oui. Quentin a l'air très informé. Hein.
Oui, il sait, il a suivi. Hein.
Ah, j'adore moi tout ce qui touche au judiciaire et tout, et la guerre des avocats, tout ça, c'est voilà, Rive droite, Rive gauche, c'était un peu tout ça quoi.
Mmh. Bravo, oui, puisque Depardieu joue un avocat avec Jacques Weber.
Tout à fait. Et la belle Nathalie Baye. Quentin, deux bonnes réponses, bravo. Hein. Vous êtes qualifié évidemment pour la finale. La montre RTL est à vous, à Lyon.
Merci.
Et on aura grand plaisir à vous retrouver tout à l'heure, Quentin.
Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Écoutez à tout moment La Tête dans les Étoiles sur RTL.fr.
Et RTL.fr ou RTL 105, d'ailleurs du côté de Lyon, dans le Rhône, où il y a Quentin. Quentin, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, rebonjour.
Rebonjour, bravo, hein, deux bonnes réponses avec Philippe Labro, donc qualifié pour 8 960 €, une paille. Quentin, concentrez-vous, c'est Philippe Labro qui va vous poser les questions. C'est à vous Philippe pour la première affirmation.
Alors, première affirmation, j'achète mon papier pour écrire à Paris chez le même fournisseur que Marcel Proust.
Vrai ou faux ?
À l'époque où on a tous des ordi, vous écrivez toujours...
Vrai ou faux ?
Allez, vrai.
Bravo.
Eh ben écoutez, bravo. Alors là, vous voyez, là, comme vous dites, à l'époque, on a tous des ordi. Mais si vous remarquez bien le nombre d'auteurs qui viennent dans cette émission La Tête dans les Étoiles, si vous les écoutez, la plupart écrivent au crayon à papier, au bic, à la plume, suivant évidemment le fanatisme de chacun. Et c'est toujours extrêmement régulier. D'Ormesson, c'est un stylo bleu. Chacun a ses rites et vous en avez un également, Philippe Labro.
Oui, oui, j'ai plusieurs stylos. C'est de l'encre noire, parfois l'encre verte. Et puis, il y a les crayons. Je suis un cinglé de crayons. Ça permet d'effacer. Hein. L'intérêt du crayon, c'est qu'il y a une gomme.
Oui, oui, on efface ses erreurs, au cas où. Aussi. Mais cela dit, c'est vrai que vous avez le même fournisseur en papier que Marcel Proust.
Et Colette. C'est un très bon fournisseur au centre de Paris. C'est un papier un peu plus large que le papier habituel, de couleur un peu vert clair ou bleu clair. Et j'aime beaucoup ça.
Oui.
Parce que c'est du fétichisme, tout ça. Tout écrivain est fétichiste et maniaque.
Et vous savez que Kefelec se fournit à la même boutique que vous.
Allons bon.
Uh-huh. Lui aussi a le même. Ouais, il va chercher son papier aussi là-bas pour écrire. Yann Kefelec qui sera notre invité tout prochainement, la semaine prochaine, me semble-t-il. Quentin, bravo. Perspicace, 80 euros.
En fait, tout artiste a un rituel. Donc, en fait, comme les sportifs. Et
exactement.
Et je vois que tous les artistes ont leur rituel, quoi.
Oui, oui, c'est les footballeurs qui jouent tous leurs matchs avec les mêmes sous-vêtements. Il y a de la superstition dans tout cela.
Et votre première lectrice, c'est votre femme, Françoise.
Oui, exact, exact.
Qui lit donc les bonnes feuilles ou les feuillets.
Non, non,
les feuillets.
Une fois que j'ai fini, que j'ai fait taper le manuscrit, c'est elle qui a le premier regard sur le manuscrit de mon roman.
Ouais, et alors, pour aller plus en détail sur le côté maniaque de l'auteur,
oui.
Donc on a vu que c'était des feuilles de couleur, bleu ciel ou vert clair. Vous avez une écriture extrêmement serrée, presque illisible.
Illisible, ce qui veut dire qu'une fois que j'ai écrit le bouquin, il faut que je le dicte sur des cassettes que je donne ensuite à ma collaboratrice, Anne Boy, qui les tape. Mais comme ça me permet déjà de lire à haute voix mon manuscrit, ça me permet déjà de le corriger pendant que je le dicte. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
Au fond, c'est pas une mauvaise méthode.
Et alors, autre particularité, vous écrivez dans l'obscurité, dans un silence absolu.
Ah bah évidemment, vous pouvez écrire avec...
Je sais pas, on a quelques auteurs ici qui nous ont dit on écrit sur des tables de bar à Saint-Germain-des-Prés.
Eh bien, ils ont de la chance. Ils ont
vous voyez, dans un brouhaha total.
Moi, il me faut le silence et effectivement la lumière électrique. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaille dans la journée, je ferme les rideaux et j'allume une lampe.
D'accord. Une concentration absolue sur la feuille, c'est ça ?
Et l'obsession qu'il faut faire ça la nuit. Parce que la nuit, c'est le silence. Et c'est la solitude.
Alors, pour revenir sur l'écriture, vous dites on n'est pas forcément non plus, on n'a pas besoin d'être malheureux, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans la misère quand on est écrivain. Quoi. Le malheur de l'écrivain, vous n'y croyez pas ?
Non, je ne crois pas à la douleur. J'ai la douleur d'écrire. Il n'y a pas de douleur d'écrire, il y a une difficulté. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un privilège et une chance. Quelle chance j'ai de savoir et de pouvoir écrire. Vous vous rendez compte ? C'est un bonheur.
Et vous faites ça depuis que vous êtes très très jeune. Hein,
très gamin, ouais, très c'est gamin, la seule c'est chose que je sais faire en fait.
Quentin, 80 euros sont tombés, voici la seconde affirmation, c'est à vous Philippe Labro.
Je n'ai aucun diplôme universitaire.
Vrai ou faux ?
C'est faux.
Eh bien c'est vrai.
Eh oui.
Eh oui. Vous avez votre bac, Philippe.
J'ai mon bac, mais deux bacs, mais je n'ai pas de diplôme universitaire, même s'il est vrai. Donc c'est pour ça que Quentin, il faut faire attention que je suis quand même docteur honoris causa de l'université de Washington-Lee. Alors mes enfants, attention, est-ce que c'est un diplôme ça ?
quelque part, oui, c'est un diplôme d'honneur.
Oui.
C'est ça. C'est
mais je ne suis pas diplômé. Comme,
voilà. Non, vous n'êtes pas diplômé.
Non.
Reconnu légalement par l'université américaine comme étant diplômé ou en possession d'un doctorat. Vous êtes... vous êtes d'honneur, voilà. Vous
docteur
n'avez pas
d'honneur.
Docteur ouais. d'honneur, c'est ça. Quentin, voici la troisième affirmation, c'est à vous, Philippe Labour.
Je porte mon alliance à la main droite.
Vrai ou faux ?
Faux.
Et non, parce que comme à l'annuaire gauche, je porte une bague en or, lapis lazuli qui est faite sur mesure dans les années 50 par un bijoutier de Virginie pour mon université, et que je la retire jamais. Donc, mon alliance est sur la main droite. Je suis désolé, Quentin.
Mais c'est vrai que vous l'avez toujours eu, cette bague.
Toujours.
Cette bague.
Oui, depuis... Depuis
que vous êtes rentré des États-Unis, ouais. C'est ça.
C'est un fétiche. Ouais, un autre fétiche.
C'est-à-dire, quand on va au collège aux États-Unis, c'est-à-dire à l'université, ce qu'ils appellent le collège, on a toujours la bague de son université.
Oui, on a le droit de la porter, mais en général, les Américains, après qu'ils l'aient portée, ils la gardent un petit peu, puis ils s'en débarrassent. Et en réalité, les Américains adultes, qui ont mon âge, ou parfois plus jeunes, ou parfois plus âgés, ne portent pas la bague de l'université. Quand je vais là-bas, ils me regardent. C'est un petit côté étrange.
Oui, qu'est-ce qu'il fait avec sa bague d'université ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi il joue ?
Docteur honoris causa, c'est chic en même temps.
Oui.
Quentin, 80 euros sont tombés et on va se retrouver dans un petit instant, Quentin, avec trois autres affirmations. Concentrez-vous du côté Lyon. Et je vous disais tout à l'heure dans les... Voilà, écoutez, ça c'est du labro, écoutez bien. Et voilà, oh ma jolie Sarah, il faut dire que tous les titres de cet album de Johnny Hallyday dont on vient d'écouter Sarah, eh bien les paroles de l'album en entier étaient signées. Philippe Labrousse, c'est vous qui avez fait toutes les paroles de cet album, Philippe.
Ah oui, c'est un très grand souvenir. Ça, l'album s'appelait Flagrant Délit et on a dû l'écrire, l'enregistrer tout en 15 jours à Londres. C'était une aventure extraordinaire.
Et une suite de succès incroyable parce que ça, elle le joue toujours Hallyday sur scène, hein, Sarah.
C'est une de mes grandes fiertés.
Et après, vous avez fait Poème sur la 7e également.
Oui,
avec Johnny.
Sur un thème de Beethoven. Et aussi Ne tuez pas la liberté. Tout a commencé par Jésus-Christ, un hippie qui a fait un vrai scandale à l'époque.
Vous voyez, quand on parle des carrières multiples de Philippe Labrousse, cet après-midi, évidemment, on évoque le travail de parolier, d'auteur de Philippe Labrousse.
Écoutez à tout moment La Tête dans les Étoiles sur rtl.fr.
On est avec Quentin à Lyon qui connaît bien Philippe Labrousse, mais là, on le piège quand même sur certaines questions. Ça va, Quentin ?
Oui, tout à fait.
80 euros. C'est pas fini, on a encore trois autres affirmations. Concentrez-vous bien sur nos questions. Quentin, écoutez bien, Philippe Labrousse, c'est à vous pour la quatrième affirmation.
Le matin, j'aime me faire réveiller par un coup de sifflet.
Vrai ou faux ?
Oh, c'est bizarre ça, mais vrai.
Eh non, malheureusement.
Ça me rappelle le sketch de Palma. Il y a un type tous les matins à 6h qui fait un coup de clairon.
Non. Simplement la raison pour laquelle ils ont préposé cette question, Quentin, c'est que lorsque je dirigeais les programmes d'RTL, je me servais d'un sifflet en bois qui reproduit le « wouh, wouh, wouh » des trains américains. Et c'était pour ouvrir la conférence quotidienne de midi. Ils appelaient ça la messe. Ils étaient tous derrière la porte, ils attendaient. Moi, je faisais « wouh, wouh, wouh ».
Voilà, les journalistes rentrent et il y a la conférence quotidienne que faisait Philippe Labrousse de RTL pendant des années. Et tout le monde se souvient du sifflet de Philippe Labrousse que vous avez toujours, d'ailleurs.
Ah, bien entendu.
Ça marche encore. Hein.
Oui, donc c'est un bruit merveilleux puisqu'il évoque l'Amérique.
Cinquième affirmation, Quentin, c'est à vous, Philippe.
Je suis obsédé par le temps.
Vrai ou faux ?
Faux.
Eh bien, dites-donc.
Si, j'ai toujours besoin de savoir l'heure. Je passe mon temps à gagner du temps, à essayer de le rattraper. Je me dis toujours que les journées sont trop courtes. Et elles le sont, bien entendu. Et donc, c'est une obsession chez moi, effectivement.
Chronopathe, mais dans le sens positif. C'est-à-dire là, par exemple, il a posé sa montre sur la table. Vous voyez, on a une grande table en bois. Il y a la montre à côté.
Oui, pour l'avoir en face de moi, c'est vrai.
Vous avez l'heure.
Oui, bien
alors
sûr.
Qu'il y a des pendules partout ici. Hein. Il l'a mise devant lui, sa montre. C'est exactement ça.
On a fait un grand malade.
Sixième affirmation, Philippe Labrousse.
Alors, attention Quentin, je ne porte jamais de cravate.
Vrai ou faux ?
Ben, je vous ai jamais vu avec une cravate, donc je dirais vrai.
Alors là aussi, c'est une question piège, mon pauvre Quentin, parce qu'effectivement, j'en porte, mais je les porte dénouées le long du col, enfin donc sous le col, tout le long de la chemise, ce qui me permet, quand j'ai un rendez-vous un peu important, chez des gens importants, des conseils d'administration et tout, à ce moment-là, je la noue. comme ça je l'ai sur moi, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est une sorte de, oui, une sorte de fétiche, d'accessoire qui énerve tous mes copains. Ils disent, pourquoi tu la portes comme ça?
Et ça a toujours été, hein, c'est comme la bague, vous savez, la bague américaine, voilà, c'est comme ça. Nous ici on connaît Philippe Labro avec la cravate dénouée, la cravate qui pend de chaque côté, un pan de chaque côté de chemise, et puis effectivement conseil d'administration, crac crac, on noue sa cravate,
ben voilà,
on sort,
exactement.
Et on est détendu.
Ce qui vous permet d'être à la fois un clown et un sérieux.
Quentin, 80 euros, ça vous permettra, vous n'avez peut-être...
d'acheter le livre.
Eh ben voilà, voilà, largement.
Dommage, je ne l'aurais pas dédicacé.
Ah, la boulette, ben, vous savez quoi, on va vous faire dédicacer un mot sur une page blanche que vous pourrez insérer dans le livre.
Eh ben, ça comme une prière d'insérer. Ça me fera énormément plaisir parce que j'admire M. Labro.
Ben écoutez, vous êtes très gentil. Ah,
vous n'êtes pas le seul.
Merci.
Quentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne lecture hein, de ce fait. Et salut Quentin. Philippe Labro, Les gens, le roman numéro 1 des ventes depuis sa sortie. Vous devez en être fier hein, pour ce 20e roman, Philippe Labro.
Fier et modeste, il ne faut jamais se vanter. Hein, c'est très bien, bravo, c'est une chance, c'est formidable, mais voilà, il y en a d'autres, hein, je ne suis pas le seul.
Trois parcours et cette rupture, et puis l'infini manque d'amour qui reviendra toujours sur le parcours. C'est l'histoire de ces trois personnages que vous allez regarder, qui ferait d'ailleurs un très joli film. Pas simple, mais qui ferait un beau film. On en a parlé, on a même presque trouvé le réalisateur. Hein,
sans doute.
Philippe, voilà, un bon réalisateur américain qui sait parfaitement traiter ce genre de situation. T'es extrêmement doué pour ça.
Il faudra simplement trouver le casting. Hein.
Ah, pas
qui
mal.
Qui joue Maria.
Oui, hein. Qui joue Maria. Mon Dieu, pas simple.
Jean-Paul Antoine, qui est un très bon critique, qui a beaucoup aimé mon film, disait c'est Keira Knightley qui devrait jouer Maria.
Joli, oui. Oui, oui.
Pas mal.
Pas mal, c'est bien.
Et il voit Marcus par Tom Cruise. Le méchant doit être interprété par un très beau gosse. Et puis, il y a quelques temps.
J'allais vous proposer
Charles Gainsbourg.
Philippe Bouvard, parce qu'il arrive dans un instant. Mais je crois que ça ne ferait pas le rôle quand même. Merci beaucoup, Philippe Labro.
C'est moi. Je vous remercie. C'est une merveille, cette émission. Bravo.
Merci à vous. C'est chez vous. dans un instant, le grand studio. Vous allez retrouver Philippe Bouvard sur RTL. Il est 16h.